Salut, c'est Fred Testo. Bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Mohamed Bouafsi, tu nous fais écouter le témoignage de Paul Olivier qui s'est fait piéger par le marketing des paris sportifs.
On est sur des publicités qui sont agressives. Ils dépensent tellement d'argent sur le côté positif avec les gains qu'ils montrent jamais la face cachée.
Paul Olivier a raison. Tu vois des pubs partout. On voit des stars du foot qui sont sur les terrains. Dans les pubs, tout est fait pour t'emmener dans le mur. Ils te font croire que parier, c'est connaître des sensations fortes, que c'est les valeurs du sport, que tu vas gagner facilement et surtout beaucoup, que tu seras le seul à gagner et que tu vas intégrer une famille de parieurs. 60% du chiffre d'affaires sur les paris sportifs se fait sur le dos d'une minorité, des adolescents, des hommes jeunes, de milieux modestes qui veulent survivre, changer leur vie. Les vrais gagnants, c'est pas les parieurs, mais uniquement les sites de paris sportifs.
Parier, c'est pas rien. Des questions ? Rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro pour débriefer eh bien ce Game 2 des Finals NBA qui s'est joué cette nuit. Je suis juste aujourd'hui avec Chris Singleton. Salut Chris.
C'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal.
Hello everybody.
C'est déjà pas mal, c'est suffisant.
Voilà. Ouais. Au moins, le débat, il va être bien.
Bah ouais, on aura plein de choses à dire. Victoire de Boston, 105-98. Boston qui mène 2-0. Boston qui a gagné en changeant un peu la manière, finalement, Chris. Le Game 1, il y avait une grosse adresse à 3 points. Le jeu de Boston, concrètement. Cette nuit, ça a été beaucoup plus défaillant, 10 sur 39. Et pourtant, ça gagne quand même. En fait, Boston, quelle que soit la manière, peut battre cette équipe de Dallas.
Oui, de toute façon, quand on a un gros volume de shoot à 3 points, forcément, il y a un jour où ça rentre pas. Donc là, effectivement, c'était le début de match était très compliqué pour eux parce que ils avaient pas l'adresse. Mais la grande force de cette équipe de Boston, que c'est pas limité jusqu'à ça. C'est vrai que c'est une grosse partie de leur jeu, mais c'est une équipe qui est hyper bien équilibrée en fonction de attaquer le cercle, les drives, les 1 contre 1, la présence au rebond, et surtout dans les moments où ils sont pas à droit, ils ont une capacité défensive d'augmenter le niveau, créer des styles, créer des paires de balles en face, et c'est comme ça qu'ils retrouvent un petit peu leur équilibre.
Et ce qui est dingue, c'est que Dallas, sur la première mi-temps, est souvent devant, mais ils n'arrivent jamais à creuser un écart, en fait, concrètement. Et dans le troisième quart-temps, dès que Boston, par contre, retrouve de l'adresse, tout de suite, l'écart se crée, on passe à plus 10, plus 13, et là, Dallas ne revient jamais.
Oui, une grosse qualité d'une équipe, une très bonne équipe comme ça, c'est justement dans les périodes un peu compliquées qu'ils arrivent à équilibrer, à garder la force défensive, de appuyer un petit peu plus là-dessus et attendre que le vague y passe. On sait parfaitement bien avec cette équipe de Dallas, c'est une équipe offensive qui dépend énormément de Doncic, Kyrie Irving étant un peu musclé en ce moment parce que Boston a l'équipe pour le faire avec des grands ailiers costauds, physiques, lui donne aucun moyen de trouver des solutions comme il faisait avant. Donc, effectivement, attendre. Mais par contre, ils sont en train de nous montrer leur capacité, leur expérience. Beaucoup de choses qu'ils ont appris l'année dernière.
Et tu disais, du coup, on ne voit pas Kyrie Irving, on en reparlera juste après. Mais justement, la grande force de Boston, c'est que le match 1, Porzingis sort du banc, il claque 20 points. Cette nuit, il ressort du banc. D'ailleurs, il y a eu un petit débat avec Fred Weiss.
Oui.
Après le game 1, est-ce qu'on doit le laisser sur le banc ou est-ce qu'il doit redevenir titulaire? Joe Mazzulla a choisi de le garder en sortie de banc. Cette fois, il met que 12 points, mais il a encore finalement été important. Et puis surtout, il y a, j'ai envie de dire, deux role players, mais c'est beaucoup plus que ça. Jrue Holiday et Derek White, c'est des All-Stars en puissance. Jrue Holiday, d'ailleurs, a été All-Star, 26 points et 18 points. Et Jrue Holiday, qu'on n'a pas vu à 3 points, mais qui a continuellement effectué des coupes dans le dos de la défense, qui a toujours été trouvé et qui termine, je crois, à 9 sur 9 près du cercle. C'est exceptionnel comme adresse. Et encore une fois, en fait, il y a des armes partout chez les Celtics.
Oui, non seulement il y a des armes au niveau de l'adresse, ils ont 6 joueurs avec capacité de mettre dedans à 3 points. Quand ce n'est pas le cas, ils ont 3-4 joueurs comme Derek White, comme Holiday, qui sont très costauds dans la peinture, qui sont capables de créer des situations auprès du cercle, aller sur la ligne de lancer franc. Donc, l'histoire de Porzingis, ça, on va le voir un peu plus tard, parce que j'ai l'impression que physiquement, c'est très fragile.
Oui, il a dit qu'il a été touché d'ailleurs cette
ça
nuit.
Ça tient sur une ficelle.
Voilà,
hein, donc,
ça tient sur une ficelle, mais il y a 2-0 Boston.
Oui, tout à fait. Non, mais c'était important d'avoir ce 2-0, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Un match 3-4 à Dallas, où tout va changer, mais complètement.
Oui, ça
rendra on va voir une équipe transformée, j'en suis certain. Donc Boston doit être encore plus costaud. Qui utilise Porzingis sur le banc ou dans le 5, ce qui est le plus important, c'est les minutes à la fin. Alors, on l'a vu dans ce match 2 que Porzingis était incapable de finir le match. Donc on va voir comment sa jambe réagit vis-à-vis, parce que la blessure, il est sur la même jambe, la faiblesse est sur la même jambe. Donc c'est une alerte. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour les Celtics? Évidemment. Ça change beaucoup de choses défensivement, parce que c'est un des meilleurs défenseurs de cercle, et c'est encore un attaquant hors pair. Donc ça c'est quelque chose à suivre.
Ouais, surtout qu'il y aura finalement assez peu de repos, hein, ça s'enchaîne. Le prochain match, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Le premier match, du coup, sur le terrain de Dallas. Les Celtics qui ont finalement eu moins de marge sur ce match, est-ce que c'est encourageant pour Dallas de voir que l'écart s'est un peu resserré, ou est-ce que ça met un coup sur la tête parce qu'on se dit on a été meilleur, mais finalement, Boston n'a jamais vraiment été inquiété sur ce match. Il y a bien ce moment, ce contre de Derek White sur la contre-attaque sur PJ Washington, où ça peut potentiellement revenir à 3 points, mais bon, finalement, y a ce contre et Dallas est jamais proche de l'emporter.
Ouais, quand on perd un match en finale, c'est rarement encourageant en disant parce que vous n'avez pas le temps. Là, Boston est à 2 victoires, il nous manque 2 pour être champion de NBA. Dallas, il en manque 4. Donc à partir de là, tu te dis oui, il faut grignoter, il faut raisonner. On a perdu 2 matchs à l'extérieur. Maintenant, c'est à nous. Il faut qu'ils gardent l'autre terrain pour essayer d'aller à Boston après. Pour essayer de faire quelque chose. Mais c'est vrai, il y a plus de choses pour moi aujourd'hui côté Boston, parce que justement, le match 2 n'était pas aussi facile que le match 1, entre guillemets.
Il était plus normal pour Boston.
Il était plus normal et ça a forcé Boston à trouver des solutions. Ça a forcé Boston à faire autre chose qu'envoyer à 3 points. Et ils ont démontré leur capacité de s'adapter, de dire aujourd'hui on n'est pas à droit, qu'est-ce qu'on fait? On continue les drives vers le cercle, on continue à aller sur la ligne de lancer franc et surtout, avant tout.
Et on est à droit sur la ligne des lancers francs,
on est à droit.
Contrairement à Dallas.
Ils ont raté un.
Voilà, c'est ça.
Dallas qui en a raté 7. Et ils perdent 7 points, il y a 7.
ça fait mal à la tête.
Et ils perdent 8 ballons. Donc, à partir de là, tu te dis. Il y a 2-3 détails dans ce match qui sont très gros. Mais encore une fois, Boston appuie sur la défense dans les moments difficiles. C'est ce qu'ils ont appris.
Ça devient compliqué aussi pour Dallas au niveau de Luka Doncic, qui était incertain avant ce match 2. Bon, sur le terrain, ça fait quand même 32 points, 11 passes, 11 rebonds. Mais encore une fois, il n'y a pas d'aide pour le Slovène qui fait un mini one-man show. Mais derrière, ça ne suit pas, que ce soit Kyrie Irving, que ce soit Derek Lively, PJ Washington, Derek Jones. Il n'y a personne en fait, qui alimente régulièrement le scoring tout au long du match, hormis Luka Doncic.
Oui, je pense qu'il y a des adaptations à faire. Je pense qu'il faut se rendre compte que même si Doncic est en triple-double, il paye extrêmement cher physiquement, parce que Boston ne lui donne pas de repli. Hein.
Ouais, il est ciblé tout le temps.
Il est ciblé, il est pris tout le terrain. Peut-être qu'il faut faire monter la balle par quelqu'un d'autre à moitié du temps, parce que pour l'instant, c'est lui qui monte la balle.
Et puis, il commet plusieurs pertes de balles, des fois sur ses remontées de balles, on sent que physiquement, en fait, au bout d'un moment, c'est difficile.
Il y a des très, très bons défenseurs sur le ballon. Ça, c'est... Toutes les équipes n'ont pas ça. Boston en a à peu près 3-4 comme ça. Donc, à partir de là, c'est très compliqué de passer. Il faut se donner physiquement. Et puis, il faut trouver d'autres solutions, effectivement. Est-ce que ça sera peut-être pas une bonne chose d'enlever la poussière de Tim Hardaway Jr.
il est dans le formol, Tim Hardaway Jr.
Ouais. Ouais. Donc, à un moment donné, Jason Kidd va être confronté avec ça. C'est un joueur qui est capable de mettre 20-25 points, on le sait. C'est un joueur qui est capable d'être électrique. Pourquoi pas le sortir à Dallas et puis lui rentrer dans les rotations, qu'on puisse avoir, Dallas puisse avoir, cette troisième option fiable, qui peut exploser un match, parce que pour l'instant, Kyrie Irving en deuxième option, est quand même obligé de forcer quelques shoots. Il n'a pas la même réussite sur ses drives, parce qu'il y a toujours une deuxième vague de défenseurs. Donc, et puis pour l'instant, ça sera un autre sujet, Gafford et Lively n'ont pas du tout l'impact qu'ils avaient jusqu'au final.
Avec pourtant un Porzingis qui a moins joué cette nuit, on pouvait penser qu'il trouverait plus de, qu'ils apporteraient plus dans la raquette. Et en fait, Lively cette nuit, c'est 2 points. C'est quasiment oui. Et puis sur le banc, surtout, Josh Green 4 points, Dante Exum 3 points.
Ouais, non, mais c'est toujours le souci.
Et c'est tout.
On a tendance à mettre le bar très haut pour les jeunes joueurs dès qu'ils ont fait une performance. Lively, pour moi, il joue comme un rookie. Tout à fait normal.
On ne peut pas en attendre beaucoup.
Il est dans
plus
sa première finale. Il y a plein d'éléments, ça va plus vite, c'est plus intense, c'est les équipes en face, voilà, quand tu joues contre une équipe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils se connaissent, ils savent parfaitement bien les tendances, donc Lively dans son jeu, il doit trouver autre chose.
Boston a vu ce qui avait marché pour Dallas contre Minnesota.
Il bloque tout ça, parce qu'on le voit plus, ces fameuses drives, lobes, dunks, qui dominent le jeu de Dallas. Avant, ils en faisaient 7-8 actions comme ça. Maintenant, c'est un ou deux. C'est pas Gafford, il n'arrive pas non plus à trouver de l'espace à l'intérieur. Parce qu'on sait que lui, il est assez unidimensionnel. À part un double pas et un dunk, tu n'auras pas d'attaque de Gafford. Lively non plus, il n'a pas de shoot extérieur. Il ne peut pas faire des pick and pop. Donc, à partir de là, tout est vers le cercle. Boston a compris ça. Ils ont les joueurs physiques pour le bloquer. Et pour l'instant, ça reste là-dessus. Donc, si tu n'as pas un autre joueur extérieur capable sur les renversements de ballon, effectivement, Green, Exum et tout ça, ça ne fait pas le taf pour l'instant.
Le problème, c'est qu'ils prennent des shoots aussi dans des endroits où ils ne sont pas forcément à l'aise. C'est-à-dire que Dallas, on a vu ça toute la saison et encore plus en play-off. Dans les corners, ils étaient très, très fiables à 3 points. Là, tu ne vois jamais les joueurs de Dallas quasiment ouverts dans les corners. Voilà, ils sont toujours face au cercle, en fait, ou un tout petit peu décalés. Et du coup, PJ Washington, Dante Exum, ces shoots-là, ils ne les aiment pas.
Une des clés, c'est toujours ça, c'est les préparations de match. Si une équipe veut jouer à droite, vous les forcez à gauche, et ainsi de suite. PJ Washington, je n'ai jamais vu prendre autant de shoots à 45 degrés. Ce n'est pas son spot. Il faut qu'il bouge 45 degrés vers la ligne de fond. Et c'est là qu'il est efficace. Et trouver d'autres joueurs capables d'exploiter cette passe à l'opposé, pour l'instant, qu'ils ne font pas, que le Celtics font tellement bien.
Ça peut être potentiellement, Tim Hardaway, une solution. Ça peut être une solution parce qu'il y a quand même un gros problème avec Kyrie Irving, qui n'a toujours pas marqué un seul tir à 3 points sur les 2 premiers matchs. 0 sur 5 sur le premier match, 0 sur 3 dans le Game 2. 12 points lors du Game 1, un tout petit peu mieux cette nuit, 16 points. Mais il y a un vrai souci en fait avec Kyrie Irving qui est gêné physiquement, qui est beaucoup poussé sur sa main gauche en attaque. Ça, c'était quand même assez. Mais évidemment, on le met. Kyrie Irving a des faiblesses avec le ballon parfois. Main gauche plus que main droite. Et il est moins à l'aise pour se défaire de son défenseur. Et physiquement, en fait.
Pourtant, c'est beaucoup dit parce qu'il a. Techniquement, je ne pense pas qu'il y a pas beaucoup de joueurs aussi forts que lui. Mais aujourd'hui, le problème se présente tout simplement. Et je crois, malgré tout, il y a cet élément de jouer à Boston
qui l'a perturbé
un peu. Ouais. Parce que c'est la première fois depuis très longtemps. Moi, je regarde et dis, attention à ce que tu dis. Quand il déclare en conférence de presse, je pensais que ça sera plus fort. Je pense que c'est une erreur de dire ça.
Ouais.
Il
ne fait pas profil bas, il en rajoute une couche un peu.
Il rajoute une couche. De dire après tout ça, ça lui met en faiblesse. Il ne trouve pas les positions qu'il avait avant. Il n'est pas très confortable. Et le problème, ensuite, c'est que quand il est ouvert, quand enfin il trouve un shoot ouvert,
il n'a pas le rythme.
Il ne le met pas dedans. Donc, il y a une cassure dans son jeu actuellement. Que je pense quelque part, il a trop de talent. Il va forcément à Dallas, je pense, sortir un petit peu de son nid et puis donner les matchs qui ont besoin, les Mavericks, pour être compétitif. Ça ne suffira pas.
Mais c'est pas forcément un gage de réussite pour gagner, alors que Dallas est dans l'obligation, là, faut le dire très clairement, de gagner les 2 prochains. Sinon, ça va sentir très, très mauvais pour les Texans.
Il faut, encore une fois, cette 3e, 4e, éventuellement option. Il faut qu'ils retrouvent leur jeu dans la peinture où ils ont dominé jusqu'à maintenant les deux côtés du ballon. C'est que défensivement, Il faut aussi que Lively et Gafford créent des situations où Dallas peut sortir le ballon rapidement, jouer vite, trouver des espaces à trois points avant que la défense de Boston est en place. Parce que pour l'instant, la défense du mi-terrain de Boston est trop costaud pour Dallas.
Le problème, c'est que c'est aussi c'est un peu cyclique. C'est-à-dire que on arrive à... Comme Boston a de très bons défenseurs, on arrive à rester plus sur le porteur de balle. Et on a du coup moins besoin de donner d'aide parce qu'il y a forcément moins de décalages qui sont créés. Et quand il y a un décalage, on l'a dit, c'est sur un shooter qui n'est pas dans son spot préférentiel. Donc au final, on laisse des trois points, mais c'est des trois points qui ne sont pas viables pour
défense,
Dallas.
Une bonne défense est toujours basée là-dessus. Il y a deux choses. Il y a contrôler le ballon dans les 1 contre 1 très longtemps. Ça veut dire que tu ne te fais pas passer en 2 secondes. Tu gardes le ballon devant toi, ce qui permet les positions d'aide se mettent en place. Donc derrière le défenseur du ballon, il y a un carré, tout simplement. Donc quand un attaquant voit ça, il voit déjà il y a un bon défenseur devant lui et il voit derrière, il y a ceux qui lui attend. C'est très compliqué. Après, c'est un élément, mais tout bête, mais tout simple. Gardez vos pieds par terre. D'accord, il ne mange pas sur les feintes. Doncic, maintenant, il feinte 4-5 fois. Le défenseur ne saute pas. Kyrie Irving feinte 4-5 fois. Le joueur ne saute pas. Donc, il gagne du temps. Il garde le ballon devant eux. Et comme en ce moment, ils ne sont pas très adroits à 3 points, Dallas, ils ont du mal à trouver des situations en attaque.
Ouais, c'est 6 sur 26 cette nuit à 3 points pour Dallas, c'est 23%. Bon, on a parlé un peu de ce qu'il fallait changer pour Dallas, mais en fait, au fur et à mesure de la discussion, et bon, j'avais déjà ça en tête un peu, on se dit qu'il n'y a quand même pas non plus... Enfin, Dallas peut changer des choses, mais ça va quand même être très, très compliqué d'inverser la tendance parce que l'effectif, il est moins complet, il est sûrement moins talentueux du côté de Dallas. Et en fait, même si on trouve des bonnes solutions, Boston est capable de quasiment réagir sur n'importe quoi. En fait, on a déjà vu des 2-0 plus serrés que ça, en fait, dans une finale NBA.
Voilà, je vais vous dire une chose. Il y a une philosophie chez Boston qui est très simple. On appelle ça the Kiss Theory. Keep it simple and stupid. Il ne faut pas chercher à compliquer la vie. Il faut voilà. Boston n'a pas un playbook très élaboré. Ils ont tout simplement des joueurs très forts un contre un, des joueurs qui sont en train de jouer l'un pour l'autre, et ça, c'est l'importance. Ça, c'est le mot pour Tatum, que tout le monde a tendance à dire, à regarder en disant, mais tiens, il n'est pas bon parce qu'il ne fait pas ceci, cela. Mais il fait beaucoup de choses. Il fait des passes décisives, il crée du jeu, il ferme la défense.
Il attire beaucoup la défense sur lui.
Il attire beaucoup de monde. Et surtout, contrairement à l'année dernière, où on a vu forcer des shoots, vouloir être le super-héros, que finalement, il se dit, si c'est Jaylen Brown, mais tant mieux. Si c'est Derrick White, mais tant mieux. Holiday, voilà, qui a pris les choses en main. Là, je pense qu'il faut dire chapeau. Un joueur qui joue autant de minutes, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas perdu un ballon. C'est énorme, ça, parce qu'il a beaucoup le ballon en main. Il drive beaucoup. Donc, voilà. Espérer que 4-5 joueurs de Boston ne sont pas bons,
Ça va être compliqué.
Ouais. Et que Dallas doit absolument jouer au-dessus le bar. Et là, pour l'instant, bon, il rentre à la même maison. Ça peut aider beaucoup.
Que dire d'autre sur ces deux premiers matchs au niveau de Dallas? On a parlé de ce qu'il fallait mieux faire. Il y a aussi un souci pour Luka Doncic qui va peut-être avoir du mal à continuer la série dans une aussi bonne forme parce qu'en plus, il est touché à plusieurs endroits, il a toujours son souci au genou. Il y a une solution qui paraît évidente, c'est que Kyrie Irving redevienne exceptionnel comme il l'a été parfois contre Minnesota parce que Luka Doncic, ouais, là, c'est quand même un one-man show.
C'est un one-man show, mais...
Mais Boston a bien compris ça, en fait.
Mais attention, chaque fois qu'on dit que Luka Doncic est diminué, voilà, oui, on le voit physiquement bien présent. N'oublie pas, c'est quand même le Brad Pitt du basket. Lui, c'est un bon acteur. Était questionable jusqu'à avant le match, mais à qui tu veux faire rire?
Sur une jambe, il jouera. Ouais.
Et tous les joueurs sont un peu banged up, c'est compliqué. On a la fin de saison, on a des joueurs physiques en face, tout le monde est un peu dans la difficulté. Mais c'est l'esprit avant tout, c'est d'être positif dans la tête. Boston, ils sont. Ben maintenant, on va voir si Dallas arrive à renverser la tendance philosophique, parce que là, on le sent, une équipe un peu battue, une équipe un peu diminuée. Donc voilà, il faut falloir trouver des forces vives pour essayer de confronter cette équipe, cette armada. Je dis, il y a des bazookas en face. Dallas, pour l'instant, ils ont des petites cannes. Donc,
des lance-pierres, ouais.
C'est compliqué.
Comment tu la vois, la suite de la série à Dallas, Chris?
On le voit, une ambiance énorme, tout simplement. Un début de match qui va être très important parce que Boston, à la limite, doit résister justement à cette momentum. Mais ils ont Boston, pour le match 3, avoir ce 2-0 est tellement important. C'est pour ça que tout le monde a dit Boston, il faut absolument qu'ils partent de Boston avec deux victoires. Ça va leur permettre d'être pas trop nerveux, pas trop paniqués si jamais les choses se passent difficilement. Très franchement, j'attends un grand, grand et gros match de Dallas. Voilà.
Ouais, sur le match 3.
Sur le match 3.
Ouais. De toute façon, Boston a deux cartouches. Au Texas, il faut réussir à en placer une.
En toute façon, ouais, c'est très simple. Si sur ce match 3, ils ne trouvent pas des solutions en attaque, c'est rideau. Il faut où Kyrie Irving nous pète un gros match, comme j'ai dit, ou un Hardaway Jr. sort du banc, Maxi Kleber, il faut qu'il donne quelque chose. Même le petit Hardy qui a un feu.
Et qui n'a pas joué, enfin, qui n'a pas marqué, sur le deuxième match, il en a mis 13 en sortie.
Oui, on sait qu'il est capable, bon, il y a des risques.
Ouais, c'est un pétard ambulant un peu.
Oui, puis voilà.
Ça peut faire boum ou pchit.
Il voit pas toujours à droite et à gauche.
Il voit le cercle.
Ouais. Donc, mais dans un moment donné, 3-4 minutes où il allume un peu, ça peut aider parce qu'il faut absolument que Dallas ne cède pas, qu'il ne se faut pas distancer de 15 ou 20 points. Ça sera trop compliqué. Donc, début de match hyper important.
Et la différence aussi par rapport à d'autres séries, c'est qu'on avait vu parfois Dallas revenir de gros écarts en fait, dans les matchs. Ça, c'est quelque chose. Putain, tu peux peut-être le faire contre Minnesota qui n'a pas l'expérience. Tu peux pas partir de 13-15 points de retard face à Boston. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus complexe à réaliser.
Pour moi, c'est différent de revenir de moins 20 ou de moins 25 pour s'approcher un peu parce que l'équipe en face, forcément, commence à jouer un petit peu avec le chrono, joue pas tout à fait pareil. C'est beaucoup plus compliqué de faire, on est égalité, on va pousser à plus 15. Et s'il peut faire ça, Dallas, après... il ne pourrait pas relâcher. Parce que même Dallas, avec 15-20 points d'avance, avec l'arsenal qu'il a en face, avec la capacité de revenir très vite, parce qu'ils ont cette adresse à 3 points par moment, qui peut, en 3-4 minutes, 15 points, c'est rien.
Je crois qu'on n'a pas fait le tour sur ce match 2. On va parler juste pour conclure de ce qu'a dit Adam Silver qui est revenu au sujet de l'expansion, possible future expansion de l'NBA. Alors il a cité trois villes qui, si elles intègrent la NBA ou réintègrent la NBA, on parle de Seattle, seront forcément à l'ouest. Donc Seattle, Las Vegas et Mexico.
Ça te fait rire.
Déjà, Chris,
est-ce Cancun, que...
Il y a déjà NBA, ils ont pris de l'avance déjà.
Abonnement.
Ouais, ils ont des abonnements à Cancun à partir de mi-avril. Ils partent là-bas. Est-ce que tu aurais déjà une préférence sur une de ces trois villes? Potentiellement, on pourrait avoir deux villes qui seraient intégrées. On bascule une ville de l'ouest à l'est. Et on est à 16 de chaque côté.
Ouais, c'est-à-dire que j'ai toujours un petit faible pour Seattle.
Bien sûr, les Sonics.
J'ai grandi dans l'époque des Super Sonics, de Sean Kemp et tout ça, Gary Payton, la grande époque des Sonics. Donc, et je pense que cette ville est vraiment, vraiment une ville basket. Donc à partir de là, eux. Et je ne vois pas comment on ne peut pas, vu l'évolution des choses en NBA, ne pas avoir une équipe à Vegas. On fait le In-Season Tournament à Vegas.
On a une équipe
WNBA qui est championne. On a plein de choses, plein d'intérêts.
Il y a plein de franchises. Attends, OK aussi, je ne sais plus, j'ai plus le nom de la
équipe qui joue. Oui, c'est vrai.
Les Knights.
Voilà, c'est assez extraordinaire d'avoir une équipe qui est en glace à Las Vegas. Pour garder la glace, il faut déjà être très fort. Non, moi, je vois Seattle, choix du cœur. Et Vegas pratique, parce que je sais que l'NBA, voilà, ils aiment bien naviguer par là, pour toutes les raisons. Il y a beaucoup de cacahuètes là-bas.
C'est sûr, pas donc, que des cacahuètes d'ailleurs.
Ouais, donc il y a toutes les raisons d'y aller.
Il y a un souci dont parlait
Adam. Et LeBron, il veut y aller
ouais,
aussi.
Alors, donc si LeBron veut, à mon avis, Adam Silver, il va vouloir aussi.
Ouais, ouais.
Il y avait un souci dont parlait le commissionnaire de la Ligue, c'est en fait le fait que si tu rajoutes des équipes en NBA, forcément, tu rajoutes des joueurs. Et donc, tu as peut-être moins de talent concentré. Parce que si t'as 32 équipes, forcément, tu as environ 30 joueurs, ouais, c'est ça, 30 joueurs de plus. Est-ce que ça peut être un souci? Est-ce que ça peut faire baisser un peu le niveau avec des équipes qui vont démarrer en NBA? C'est compliqué, hein, l'expansion.
Ouais, l'expansion, c'est compliqué.
Piocher dans les autres équipes.
Oui, ça dépend comment ils le font, comme ils faisaient avant. C'est-à-dire que tu avais le droit de protéger, je crois que c'était 7 ou 8 joueurs.
Voilà, c'est ça.
Après, tu avais des joueurs qui n'étaient pas protégés. Mais très sincèrement, tu protèges 8, le 9e et le 10e, tu ne prends pas trop le risque
non, en général,
à t'affaiblir ton équipe, ni ne pas pouvoir remplacer ces joueurs-là. Donc, non, je ne pense pas que ça déséquilibrerait quoi que ce soit. Je pense que chaque année qu'on avance, il y a besoin de nouveautés. Là, on l'a vu avec pas mal de changements. Je pense que ce sera une bonne chose d'ajouter des nouvelles équipes.
Ok, ça marche. Eh bien, écoute, Chris, je te souhaite une bonne émission.
Yes.
Et puis, je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais...
Dans la semaine, je crois.
Dans la semaine
ouais.
Ok, super. Je crois que ce sera jeudi, ouais. Jeudi matin, pour débriefer le Game 3, évidemment. En direct sur Bein, ce Game 3. Alors, l'heure, je ne sais plus, je regarde, 2h30.
2h30,
ouais. 2h30,
voilà. C'est que le week-end que c'est à 2h.
Exactement, à 2h. 2h30, ce match 3 entre Dallas et Boston. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Ciao.
À bientôt.
Salut, c'est Fred Testo, bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé Publique France où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Mohamed Bouafsi, tu nous fais écouter le témoignage de Paul Olivier qui s'est fait piéger par le marketing des paris sportifs.
On est sur des publicités qui sont agressives. Ils dépensent tellement d'argent sur le côté positif avec les gains qu'ils montrent jamais la face cachée.
Paul Olivier a raison, tu vois des pubs partout. On voit des stars du foot qui sont sur les terrains. Dans les pubs, tout est fait pour t'emmener dans le mur. Ils te font croire que parier c'est connaître des sensations fortes, que c'est les valeurs du sport, que tu vas gagner facilement et surtout beaucoup, que tu seras le seul à gagner et que tu vas intégrer une famille de parieurs. 60% du chiffre d'affaires sur les paris sportifs se fait sur le dos d'une minorité, des adolescents, des hommes jeunes, de milieux modestes qui veulent survivre, changer leur vie. Les vrais gagnants, c'est pas les parieurs, mais uniquement les sites de paris sportifs.
Parier, c'est pas rien. Des questions? Rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.